André Limbu, Mai au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous donne l'opportunité de commenter l'actualité. Les travaux d'aménagement et de modernisation de la chaussée allant de Cap Sud jusqu'à l'ULPGL à Goma sont arrêtés depuis plusieurs mois. Ces travaux, exécutés préalablement par l'entreprise Tramico pour les comptes du gouvernement, devraient être conduits à terme par le même maître d'œuvre, indiquent les autorités locales. Une position rejetée par le ministre national des Travaux publics. Cette affaire relance donc le débat sur l'état des lieux des travaux d'infrastructures exécutés à travers le pays. Quel constat faites-vous des travaux d'aménagement et de modernisation des routes dans votre milieu et que vous inspire cette situation des Goma? 081 890 63 15 ou encore 081 890 43 39, c'est notre numéro pour participer à cet échange. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Marcel Ngombombala, Berry Franklin, Luchaka et Paul Badianiam réalisent cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons déjà quelques auditeurs en ligne, mais il est temps pour nous de vous présenter notre invité, Fridolin Kachweshi, ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, qui est déjà dans ce studio avec nous. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, d'entrée de jeu, comme on le sait, généralement, il incombe au pouvoir public de fournir des infrastructures et services publics nécessaires aux besoins de ses citoyens. Mais il y a lieu de reconnaître tout de même qu'en RDC, à ces jours, il est quasiment impossible de parcourir du nord au sud, de l'est à l'ouest par voie routière. C'est une réalité que vous acceptez?
Oui, c'est une réalité que... j'accepte, mais je dois relativiser les choses, c'est que il y a 15 ans, c'était quasiment plus dramatique que la situation que l'on a aujourd'hui, et donc il y a eu beaucoup d'améliorations.
Voilà, alors c'est depuis une dizaine d'années que l'État congolais s'est engagé dans une dynamique qu'il a lui-même dénommée cinq chantiers avant et révolution de la modernité par la suite, qui sous-tend investir profondément dans les infrastructures des bases. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire à ces jours?
Merci pour la question. Je dois aujourd'hui... dire que la situation en matière d'infrastructure de base est essentiellement celle qui relève directement de mon secteur, c'est-à-dire celle des transports non concédés, est encore dans une situation quelque peu moins intéressante, et bien sûr qu'elle était encore plus dramatique il y a quelque temps. Comme vous le savez, ça fait plusieurs décennies que le pays est resté sans consentir d'investissement conséquent dans le domaine des infrastructures. Mais je dois dire qu'à partir de 2006 jusqu'à ces jours, en matière d'infrastructures routières, sur un réseau d'intérêt général qui couvre environ 60 000 km, on a aujourd'hui 16 000 km qui sont praticables, dont 9000 en toute saison, c'est-à-dire aussi bien en saison de pluie qu'en saison sèche. Mais cela représente pratiquement 28%. Et il y a quelque temps, on n'avait que 4,5% de ces réseaux qui étaient praticables. Il y a eu des améliorations au niveau des cités urbaines pour permettre justement de soutenir cette croissance, et cela en termes de voiries, hein, et il y a eu plus de 600 km de voiries reconstruites ou réhabilitées à travers les grandes villes. J'ai cité la capitale Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et dans tous les autres chefs-lieux des provinces actuelles. Et Bien sûr, il y a eu aussi d'autres travaux en matière de dessertes en eau potable et en électricité, qui sont des services essentiels, mais qui ne relèvent pas directement de mon secteur.
Voilà, 28% des réalisations, on peut dire que c'est sur le financement du gouvernement?
C'est différents modes de financement. Nous avons privilégié trois modes de financement, étant donné que notre pays venait d'une période des conflits et que le chef de l'État a voulu les hisser au niveau du standard, disons, international des gestions. Le pays a bénéficié de beaucoup de financements sous forme soit de dons, soit des prêts à des conditions concessionnelles par les institutions bi- et multilatérales, telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les autres coopérations britanniques, japonaises, l'Union européenne. C'est parmi, disons, les institutions qui ont le plus apporté ces financements ou des dons. Ensuite, il y a eu les ressources propres. L'État congolais a aussi amélioré sensiblement sa capacité d'intervention et aujourd'hui, en termes de financement en infrastructure de base, il faut compter que plus de 60% sont apportés par l'État congolais sur ressources propres. Et enfin, il y a le partenariat public-privé, qui est un mode aussi à encourager, notamment sur les axes transfrontaliers qui sont des axes porteurs de développement et à forte rentabilité économique.
Oui, parce que vous venez de parler de PPP, le partenariat public-privé. L'État a fait appel à plusieurs entreprises ou à plusieurs consortiums d'entreprises pour financer la construction et ou la gestion des infrastructures contribuant aux services publics. Ce recours au partenariat public-privé a-t-il été efficace au regard de cet état des lieux que vous venez de présenter tout à l'heure?
Oui, cela, bien sûr, est une expérience qui est encore tout à fait naissante parce que il y a quelque temps, ces modes, disons, des collaborations n'existaient pas ou ne se faisaient pas parce que le pays n'arrivait pas à capter suffisamment des ressources en termes d'investissement étranger direct. Et les pays vivaient essentiellement des grandes institutions internationales dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international et par moments aussi l'Union européenne. Mais depuis en tout cas que le pays a voulu se mettre dans les standards des nations tels que définis dans les différents programmes signés avec les institutions financières internationales, il y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement de la part des investisseurs privés. Et dans ce qui est des infrastructures de base essentiellement sédimentaires, je dois dire qu'aujourd'hui, les partenaires qui ont été engagés pour pouvoir agir en concessionnaire de certains axes routiers. Je prends l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi-Likasi jusqu'à Kolwezi, je prends l'axe Kinshasa-Matadi. Ces partenaires, en tout cas, se conforment à la transparence, à la bonne gouvernance en général, et des évaluations sont faites régulièrement, des améliorations sont apportées, et ces routes qui, dans certains cas, n'existaient plus ou permettaient pas une certaine fluidité, aujourd'hui, ces routes sont suffisamment fluides. La route Likasi-Kolwezi est en train de se construire après avoir été construite en 58. Donc, vous voyez, c'est pratiquement une expérience nouvelle qui donne des résultats et les populations sont, à notre sens, satisfaites. Et la route Kinshasa-Matadi subit aussi une consolidation et une modernisation en vue de permettre, disons, d'améliorer les conditions de trafic en tenant compte, disons, de certaines contraintes liées au relief. Il y a des améliorations à faire, c'est normal, mais l'action en elle-même est tout à fait positive.
Parce que vous avez déjà cité les cas de Lubumbashi et quelques exemples pour Kinshasa. Si vous le permettez, Monsieur le Ministre, avant d'accorder la parole à cette première série. Nous allons faire d'abord un petit tour en province, rapidement avec vous, à commencer par le Bas-Congo, la nationale numéro 1, l'axe Matadi-Boma, sur 125 km prévus jusque-là, 60 km seulement exécutés. Et il y a 3 ans, les Chinois ont travaillé l'axe Boma-Mwanda en terre battue. Aujourd'hui, cette route est pratiquement impraticable, donc un problème de maintenance aussi.
Oui, non seulement un problème de maintenance, mais un problème aussi des matériaux disponibles et des technologies accessibles et des moyens à développer, mais aussi d'éducation de la population et des mécanismes de sauvegarde. Quand on parle des routes en terre, il y a énormément d'exigences en termes d'abord des constructions, parce que nous sommes dans un pays où on a des pluies abondantes, et donc les routes en terre doivent être préservées d'une utilisation quelque peu abusive, notamment par l'institution rigoureuse des barrières des pluies. Et cela, c'est une culture à développer, bien que les actions conséquentes aient déjà commencé, la sensibilisation et la sanction. Et cette route qui a été construite par moments avec des matériaux qui étaient trouvés sur place, parce que les matériaux mieux sélectionnés, mieux élaborés étaient à distance assez longue, et donc rendrait le coût de construction assez cher, n'a pas malheureusement pu répondre aux soucis des durabilités adéquats. Et la question aussi des maintenances, bien sûr, avec le Fonds national d'entretien routier, qui était une structure tout à fait appropriée mais naissante, ne permettait pas de couvrir toutes les charges relatives à l'entretien de tous les réseaux qui étaient réouverts ou reconstruits. Et enfin, il y a la question, comme on l'a dit, des moyens. Les moyens, dans un pays post-conflit, un pays dont l'activité économique était carrément en baisse depuis les années 80, les moyens sont difficiles à trouver, et il fallait progressivement améliorer l'état, mais par rapport à ce que cette route était avant, on doit quand même reconnaître qu'il y a eu des avancées, parce que si elle est en mauvais état, mais on sait quand même la parcourir, du moins de Boma à Mwanda, on sait encore faire 3 heures de route et atteindre les 2 points.
081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
Serge, vous êtes à Mungwalu, Placide à Mbujimayi, Mathieu à Kananga. Serge, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Serge, vous avez suivi notre invité et nous lançons le débat aujourd'hui autour de l'état des lieux de différentes infrastructures à travers le pays. Votre point de vue.
Merci beaucoup, monsieur Gilles, une fois de plus pour la parole. Monsieur Gilles, je n'ai que 2 points que je vais amorcer mon intervention. La première, ça fait qu'il est autour de la visibilité des actions concrètes. Aujourd'hui, ce ministère de l'Infrastructure est en train de mettre sur pied au niveau de chaque province, et parfois aussi dans les entités territoriales décentralisées. Je pense que, monsieur Gilles, lorsqu'on voit, par exemple, un travail qui commence tambour battant dans chaque province, là je vois l'exemple de Bounia, l'exemple aussi du tronçon qui va en Bounia jusqu'à Mungwalu. Ce sont des choses qui sont vraiment à féliciter. Mais lorsque ces travaux commencent, et quelques temps après, ce ne sont que, M. Gilles, si vous le permettez,
allez-y,
juste un travail qui ne satisfait pas aux attentes de la population, M. Gilles. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, M. Gilles? Vous savez, lorsque un plan directeur est bien tracé pour chaque travail, il faudrait qu'on voie aussi les résultats de ce travail est en train de produire, etc. Vous avez vu ce constat alarmant que je suis en train de dresser pour la ville de Bounia. Par rapport aussi à cette personne qui va à Bounia pour Mungwalu, là où je suis, Je crois que, monsieur le GR, il vous faut pratiquement plus de 4 heures environ pour arriver donc au bout de votre destination. Et donc, monsieur le GR, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés quand même à un état de lieu qui est convenable. Il nous faut une solution idoine, monsieur le GR. Je pense que il faut d'abord qu'on puisse réformer ce ministère-là de infrastructures du point de vue fonds et même du point de vue forme. Lorsqu'on voit, par exemple, dans chaque province des actions en train d'être menées et qu'il n'y a pas ce que nous appelons donc une structure pour la visibilité des actions concrètes et pourquoi pas aussi des mécanismes de suivi et d'encadrement de ces travaux, ça nous fait mal, M. JR. Je crois que, pour terminer mon intervention, je crois que les ministères des infrastructures doivent vraiment revenir dans son plan directeur, dans tout ce qu'il a comme plan à suivre pour moderniser, effectivement, comme ils l'ont dit, dans le programme de la modernité de la RD Congo.
Merci beaucoup.
Véritablement arriver à cela.
Merci beaucoup, Serge. Donc, on retient que vous aimeriez bien que les choses soient claires, hein, au niveau du target que s'est défini le ministère, donc le plan directeur, l'objectif poursuivi, parce que là, par rapport à votre intervention, il semble être un peu flou, vous ne comprenez pas. Au fait, c'est pour quel objectif? Et réellement, sur le terrain, les résultats, ce n'est pas celui escompté selon vos propos. Merci beaucoup, Serge de Mungwalu. Placide, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, Julien. Bonjour à tous. C'est Galvani Placide. Hein.
Oui, voilà, Galvani, vous nous rejoignez. Quel est l'état des lieux que vous allez faire chez vous, d'abord en Mbujimayi, et aussi par rapport à la situation qui prévoit actuellement à Goma, où la chaussée qui a été, les travaux qui ont été exécutés par Tramiko, qui, au fait, avait mandat du gouvernement central. Aujourd'hui, les autorités locales demandent à ce que ces maîtres d'œuvre puissent à amener à terme donc ces travaux, ben, une position qui est rejetée par le ministère des infrastructures internationales.
Merci beaucoup pour la parole. Je devais d'abord commencer. Vous savez que la route, c'est un moyen d'abord de cohésion nationale. Et je m'explique. Elle est un moyen de cohésion nationale du fait que non, elle permet de relier d'abord plusieurs centres urbains et ruraux, c'est-à-dire réunir une province vers une autre. Et ça crée une cohésion nationale. Et deuxièmement, c'est aussi un moyen d'intégration économique. Ça permet d'avoir des produits qui sont produits dans le milieu régal et permet d'être évacués dans les centres urbains. Et parmi les attributions d'un gouvernement, les grands travaux ou les infrastructures doivent avoir une place prépondérante. Mais nous constatons qu'au Congo, avoir des routes, c'est un luxe. Je prends maintenant l'état de lieu des routes à Mbujimayi. Prenons d'abord l'exemple de la nationale numéro 1 qui prend de Mbujimayi en passant tout en allant vers Manedi tout là-bas. Donc, en tout cas, surtout pendant cette période pluvieuse, la route est presque impraticable. Et il y a des accidents, les personnes laissent là-bas à cause du mauvais état de la route. Si je rentre ici à Mbujimayi, c'est presque pire. Presque toutes les routes sont impraticables. À part ce qu'on a essayé de rétablir juste peut-être pour dans les centres urbains. Mais dans des milieux reculés, la situation est catastrophique. Ils ont aussi des exemples qui mènent vers l'université officielle de Mbujimayi, qui est l'avenue Lumumba. C'est une avenue qu'on a commencé, ils ont commencé à ranger. Mais malheureusement, les travaux se sont arrêtés. Et maintenant, si vous passez sur cette avenue, et pourquoi vous pouvez demander, même aux reporters qui sont ici, lorsqu'ils passent sur cette avenue, c'est vraiment catastrophique. Et maintenant, nous constatons que même les peu de routes qui sont d'abord réhabilitées, on réhabilite ça d'une manière très archaïque. On prend des pierres plantées, on fait en route et on dit que non, c'est la révolution de la modernité. Par contre, on sait qu'on peut mettre des tels résultats sur la route quand même. Nous devons aussi nous adapter à la technologie. Nous ne devons pas qu'on ait des pierres
de
la révolution de la modernité. Par contre, ce sont des histoires très anciennes sous la controverse sur l'Empire romain.
Voilà, Galvani.
Ça quand même évoluer.
Galvani, donc nous retenons que la situation est catastrophique en Bujimaï, hein, selon ce que vous venez de dire. La nationale numéro 1 en Bujimaï, la route qui mène, qui quitte Bujimaï pour Mweneditu, est vraiment dans un état de délabrement très avancé. Donc on va voir ça avec notre invité. Le temps de prendre Mathieu qui est à Kananga. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Gérard, bonjour monsieur le ministre. Moi je crois que dans ce pays, nous sommes habitués de faire les choses de ce contraire à la fois. Nul n'ignore que la constitution de notre pays recommande l'action de découpage territorial. Malgré les retards enregistrés pour cette opération qui devrait se faire depuis longtemps, au fur et à mesure, ça doit se faire. À cela, nous allons passer de 11 à 26 provinces déjà créées. Il y a des provinces enclavées qui doivent être...
Oui, Mathieu, allez droit au but, parce que là, vous nous perdez une minute, Mathieu, s'il vous plaît.
Oui, en fait...
Quel est le constat, route? Quel est le constat que vous avez fait, vous, personnellement, sur l'état des routes dans votre province?
C'est vraiment le constat est amer. En ce qui concerne les infrastructures, il n'y a presque rien. Pas de route sur l'ensemble du territoire national, BCG. D'autres voient seulement Kinshasa, comme le ministre vient de le dire. Matadi,
voilà, Mathieu, je crois qu'on ne se comprend pas. Vous êtes à Kananga.
C'est l'ensemble du territoire national.
Oui, Mathieu, je crois qu'on ne se comprend pas. Vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Quel est l'état des lieux des routes dans cette partie du pays?
Les routes sont vraiment impraticables.
Tu peux en citer quelques exemples?
Partout sur la table de notre ville, à passer à Tchikapa, vous allez voir même qu'il n'y a pas plus de route.
Merci beaucoup.
Ici, dans notre province de Kasaï occidental, précisément dans la ville de Kananga.
Merci Mathieu. On prend Alfred qui est à Kalemie. Bonjour, bonjour Alfred.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à l'invité, monsieur le ministre.
Votre point de vue, Alfred?
Mon point de vue est simple. Je me demande qu'est-ce que le monsieur le ministre a prévu pour la consolidation des routes. Hein. Je suis à Kalemie, je vois et quand même les travaux ont commencé, mais je me dis, bon, quand il pleut, je me dis, est-ce que je suis dans les mêmes Kalemie d'avant la pluie ou je suis ailleurs? Alors, je ne sais pas si le ministre est au courant et que... Quelles sont les solutions, les dispositions qu'il peut prendre rapidement pour que l'espoir là qu'on avait en voyant les routes là et en fait d'être fait, et si une fois la pluie, parce que la Kalemie, je vous rappelle, c'est...
Voilà, Alfred, désolé, on ne peut pas vous garder à l'antenne avec cette mauvaise qualité de communication. On sera obligé de passer à Théodore qui est en Bujimaï. Théodore, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Théodore.
Merci pour la parole. Je crois que le travail d'aménagement du territoire, ce travail d'aménagement des routes et des chaussées pour permettre une bonne circulation des véhicules en vue de ravitailler les citadins aux villageois et des villageois citadins, le gouvernement devrait vraiment prendre vraiment ses responsabilités. Si aujourd'hui à Goma, par exemple, cette chaussée n'est pas aménagée, c'est par manque de volonté de la part des exécutants. S'il y a l'argent, la Banque mondiale a financé, comme l'invité a parlé là-bas, qu'il y a des fonds. Mais on devrait s'y mettre vraiment pour aménager cette chaussée pour permettre une bonne circulation de véhicules. Si on arrive à penser pour relier par route, par exemple, ici chez Nambujimaï, vous savez, nous sommes enclavés, depuis que les trains ne circulent pas ici à chez Nambujimaï, nous avons la route de Nambujimaï vers Kabinda. Kabinda, Lubao. Lubao, c'est interdit, et puis vous entrez à Samba Kassongo dans les Maniema. À l'époque, c'était bien. Vous pouvez s'y rendre là-bas, ravitailler Kassongo, Maniema. Et puis les gens de Maniema, Kassongo, ils amènent aussi les produits pour ravitailler Mboujimaï. Cette route est vraiment impraticable. Alors, nous disons que comme cette désenclavement manque aujourd'hui, il y a aussi la route macadamisée de Mboujimaï vers Mweneditu. Il est en délabrement avancé. C'est pourquoi, dans le programme du gouvernement, on ne peut pas aussi réaménager la route qui va de Mweneditu vers Lopoutan, Wikong, jusqu'à la colonne AKCC. C'est une façon d'ouvrir la voie. Parce que les trains ne circulent pas et les avions sont vraiment chers. C'est ainsi que je dis, je lance un appel au gouvernement de passer à faire aussi dans les provinces qui restaient seulement à Lubumbashi et à Kinshasa.
Voilà, merci beaucoup Théodore. Ben, là, je crois que notre invité aura à éclairer un peu la lanterne hein, sur des travaux qui doivent être exécutés par les gouvernements centrales et des travaux d'intérêt pratiquement provincial pour faire la différence, hein, afin que nous ne puissions pas mettre tout dans le panier. Merci beaucoup Théodore. Edgar et Jean, gardez la ligne. On va vous accorder la parole dans quelques instants. Le temps pour nous de revenir à notre invité pour orienter les interventions des uns et des autres. 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, nous venons de suivre là, en tout cas, les avis des uns et des autres. Finalement, on s'est dit le 28% des réalisations dont vous avez parlé tout à l'heure, au fait, ne rejoignent pas hein, les préoccupations des uns et des autres tout à l'heure. C'est comme si les tableaux étaient vraiment sombres, que même le 28% que vous vous donnez, ce n'est pas une réalité.
Merci beaucoup. Je tiens à confirmer qu'il s'agit bien de 28% des 60 000 kilomètres des routes dites d'intérêt général. Et je n'ai pas le temps, malheureusement, de les énumérer, mais c'est essentiellement les axes dits prioritaires et qui relient particulièrement les chefs-lieux des provinces et bien sûr aussi quelques chefs-lieux de territoire. Pour les provinces, je dois relever aujourd'hui que on a 4 chefs-lieux de province reliés à Kinshasa et cela en toute saison. J'ai parlé des Matadi, j'ai parlé des Bandutu et Mbandaka et je peux parler aussi des Kananga, bien que cela s'efface dans des conditions un peu plus difficiles que les autres axes. Et quand on voit l'étendue de notre pays, on comprend bien aussi, bien sûr, les préoccupations soulevées par nos compatriotes qui sont intervenus tout à l'heure. Mais je tenais encore une fois aussi à préciser, sans élider certaines questions, que vous l'avez bien dit, nous avons aujourd'hui un cadre d'intervention multisectoriel qui est défini et précis. Je voulais faire allusion à la Constitution. La Constitution évoque en ses articles 202, 203 et 204 hein, les questions qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, celle qui relève la compétence concurrente des pouvoirs centrales et des provinces et celle qui relève la compétence exclusive des provinces. Mais l'État, c'est un tout. Je ne veux pas dire que, étant au pouvoir central, je dois rejeter, disons, certaines préoccupations soulevées aux provinces parce qu'après tout, nous agissons de manière concertée et cohérente de manière à permettre une optimisation des moyens. Et je voulais aussi parler spécifiquement des questions qui ont été posées concernant la route Bunia-Mungwalu. Je pense que l'intervenant qui a posé la question sait que Mungwalu, c'est une zone minière qui est actuellement en exploitation par un groupe dénommé AGK. Et qui a tenu à ce qu'elle puisse aménager, bien sûr, cet accès pour permettre le transport de ces équipements miniers et que cela n'est pas, n'est pas une question qui est relevée directement d'un financement du pouvoir central ou des provinces. Par contre, nous avons comme préoccupation la route Bunia-Mahagi, jusqu'à Goli, vers la frontière avec l'Ouganda. C'est une transfrontalière qui aujourd'hui fait l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt pour une concession, c'est-à-dire une gestion en partenariat public-privé qui va permettre une meilleure prise en charge et qui va permettre à l'État d'éviter d'être...
Oui, peut-être je risquerais de perdre le fil d'idée, parce que vous avez parlé de Mahagui,
oui.
En Ituri, on nous a signalé qu'il y a effondrement d'un pont, le pont vers Beni,
Loya.
À Iringeti.
Il y a un pont Loya, justement, je vais en parler.
Okay.
Donc, cette question, la solution définitive, après concertation qui a été faite au mois de février, avec les autorités locales et les opérateurs économiques, et sera de mettre cette route en concession. Mais en attendant, il y a des interventions qui sont en train d'être faites. Nous avons renforcé cet axe avec des moyens. Je crois que la population pourra reconnaître qu'il y a eu des engins neufs qui sont allés là-bas il y a à peine 3 semaines. Pour pouvoir permettre une prise en charge relativement passable en attendant une intervention beaucoup plus conséquente sous forme de partenariat. Parce que l'Office des routes, qui est notre outil de l'État, ne peut pas se positionner partout. Et cela va demander des investissements qui vont dépasser notre capacité et non seulement des financements, mais aussi notre capacité de gestion. Nous devons reconnaître que le privé doit aussi être actif. C'est le privé qui est le moteur de la croissance économique. Pour ce qui est de la route Bujima-Mweneditu, j'ai effectué cette route, disons une visite sur cette route il y a quelque temps, il y a environ 8 mois. Je me suis rendu compte de la dégradation sur certains tronçons. C'est une route qui a été, construite vers les années 70. Il n'y a pas eu de renouvellement. Vous le savez, après normalement 25 ans, on doit renouveler une couche d'éroulement. Mais il n'y a pas eu de renouvellement. Elle s'est dégradée notamment du fait que la grande entreprise porteuse de développement et des croissances économiques a ralenti ses activités. J'ai pensé à la MIBA, mais il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées pour relancer cette entreprise, bien sûr. Et en attendant, pour sauvegarder la route, il y a des actions ponctuelles qui sont menées là où il y a des passages sur route qui posent problème ou des ravinements et des érosions. Mais la route elle-même permet à ce que on puisse parcourir Mweneditu et Bujimai en moins de 2 heures. Je l'ai fait. Peut-être que ça s'est dégradé fortement dans les dernières semaines. C'est possible, mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Mais je ne dis pas que la route est en parfait état. Non, elle doit être remise à niveau. Concernant les questions liées à la ville de Kalemi, je dois dire que l'aménagement du territoire, c'est vrai, comme composante l'aménagement urbain qui doit se faire avec les autorités provinciales, mais pour ce qui est des voiries structurantes, c'est une question que nous gérons avec les autorités provinciales, mais les voiries secondaires sont gérées par les autorités elles-mêmes. Et il ne nous appartient pas de connaître les détails sur toutes les interventions. Je sais que c'est un relief très, très contraignant. C'est une ville montagneuse. Le développement urbain n'a pas été fait selon les normes. Les constructions ont été érigées de manière anarchique. J'ai vu les conduites qui étaient enterrées dans le temps, les conduites d'eau qui aujourd'hui réapparaissent à la surface. Et donc on voit qu'il y a eu un grand travail qui a été fait par la nature et par les intempéries qu'il faut impérativement, pratiquement consolider, restaurer. Et pour l'instant, j'ai saisi qu'il y a des grands travaux qui se font sur financement, soit de la province, soit du pouvoir central, en termes, des consolidations des galeries, des glissières pour pouvoir gérer correctement les eaux de ruissellement.
Avant de redonner encore la parole à cette deuxième série des auditeurs, Monsieur le Ministre, nous avons tous suivi l'actualité au niveau de Goma. Tramico ne peut plus continuer les travaux exécutés sur la chaussée Cap Sud vers l'ULPGL. Aujourd'hui, les autorités locales indiquent que c'est le même maître d'œuvre qui devra en principe achever ce travail. Vous n'entendez pas ça de cette oreille. Qu'en est-il au juste?
Oui, je dois dire que la voirie des Goma est une préoccupation, autant bien sûr que toutes les autres voiries, mais nous devons penser à cette ville qui a connu beaucoup d'affres de guerre et qui doit donc retenir un peu plus d'attention de la part de toutes les autorités, toute la population. Mais concernant les interventions dont la population a besoin pour permettre une certaine fluidité sur ces taxes, je dois dire que la phase qui avait été confiée à Tramico CBC n'intégrait pas ces taxes, mais qui a environ 38 km, s'il vous plaît, qui doivent être pris en charge dans un autre programme qui est en cours d'être finalisé avec l'Union européenne, qui lui permettra la prise en charge de ces taxes aussi et pourra certainement répondre à la préoccupation posée ponctuellement. Mais les axes qui ont été retenus en priorité sont des axes principaux. C'est des axes qui permettent la fluidité entre l'aéroport et la frontière avec le Rwanda du côté de ce qu'on appelle la Grande Barrière. Et puis c'est l'axe Sake qui est en fait un segment de la route nationale numéro 2 qui part des Mbujimayi en passant par Cabinda tel que l'un des... jusqu'à Songo, jusque pratiquement à Bukavu. Et c'est poursuivant jusqu'à Goma et de Goma jusqu'à Beni. Et donc, cet axe est aussi très important et c'est l'axe qui a le plus de fluidité et le plus de trafic qui doit permettre une meilleure fluidité. Donc, il y a des axes secondaires qui, en principe,
qui ne relèvent pas
des autorités provinciales, mais qui sont faits de façon cohérente.
Voilà, il y a d'autres auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Edgar Kananga, Alain Aguemena, Jean Sengui à Kinshasa. Edgar, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Edgar, vous avez suivi notre invité ainsi que vos prédécesseurs. Votre point de vue.
Voilà, j'ai resté vraiment le point de vue du prophète Mathieu. Malgré que je ne partage pas vraiment totalement ce point de vue, mais je crois qu'il y a lieu de reconnaître le travail abattu par l'entreprise chinoise Grec 8 en asphaltant les deux boulevards parallèles qui vont du rond-point situé à côté de la Monusco jusqu'au niveau du résident officiel du gouverneur de Pompins. Bon, pour ceux qui connaissent la ville de Canaan, je crois que cela vraiment ne représente pas grand-chose par rapport au travail qui reste. Mais quand on voit le temps que cela a pris, M. JR, pour asphalter ces deux boulevards, et là, c'est vraiment déjà des doutes dans nos esprits quant à l'avenir de ces travaux. Hein, parce qu'il y a, au début de ces travaux-là, bon, les votes sont élevés pour dénoncer la manière que les Chinois avaient commencé. Parce qu'ils ont d'abord tout détruit, presque tout détruit. Donc, le gouvernement s'est trouvé, l'autre, tout détruit. Donc, c'est que maintenant, là, les poussières, je vous dis, vous ne pouvez pas aller en ville et puis retourner propre. Vous devez peut-être vous laver ou vous dépoussiéter. Donc, vraiment, les poussières, ça dérange beaucoup les gens. On nous dénonce cette manière-là d'agir. Vous devez aller étape par étape. Vous voulez détruire tout ce qu'il y avait. Et puis maintenant, pour avancer, les travaux n'avancent pas. Ça avance après à pas de tortue. Alors, bon, comme proposition, je pense que on doit vraiment arrêter et puis évaluer d'abord, faire une évaluation à mi-parcours de ces travaux. Parce que quand on rejetait, comme gouvernement a rejeté tout ce que les gens là, les Goma là ont dit, donc, ce n'est pas une bonne attitude de pouvoir rejeter en bloc comme ça. Je crois qu'il faut vraiment écouter ces gens là et puis voir dans quelle mesure on peut
améliorer,
tenir ou continuer. Voilà. Mmh. Alors, je voulais aussi ajouter autre chose de M. Pigère.
Oui,
quand les chefs de l'État arrivent ici, les gens qui travaillent le long de la route là pour arranger la route déploient le matériel. Et on érige des drapeaux là-bas pour vous montrer qu'on travaille. Alors quand les chefs d'État quittent la province, tout s'arrête et les travaux n'avancent plus.
Voilà.
Vraiment, donc, je crois que cette manière de travailler là, cette hypocrisie là, nous dénonçons ça vraiment. Il faut que
ça soit confiance.
Le travail de tous les jours.
Voilà,
pas là, les chefs d'État arrivent, on déploie les véhicules, les drapeaux, et puis après son départ, tout s'arrête. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà ce que je voulais dire, monsieur Gilles.
Merci beaucoup, Edgar. Alain, vous êtes à Guémena. Bonjour. Alain?
Oui, monsieur le ministre.
Voilà, Alain, vous avez la parole.
Oui, je voulais dire, quand on regarde à la télé ici, je vois d'autres nationaux nommés numéro 36 consorts. Tandis que RDC a 11 provinces. Moi, je me demande, à l'Équateur, il y a l'équipe nationale. Cela veut dire que l'Équateur ne fait pas partie de la RDC. Ça, c'est la première question que je voulais poser à M. le ministre. La deuxième question. Ici, si je fais calculer de Abuja jusqu'à Mouyende, je fais les 10 à 1000 km. Tandis qu'il n'y a aucun kilomètre qui est réhabilité. Est-ce que M. le ministre fait cela? Par exemple, ici à la ville de Guémena, dans les mandats passés, on avait dit que l'OVD est en train de réhabiliter. Il a trouvé des fossés, il a fait des aventures, il n'a réhabilité aucun mètre. Il a creusé rien que des fossés qui aujourd'hui constituent des érosions qui ne permettent pas aux gens de quitter la parterre pour atteindre la route. Alors, je veux savoir, est-ce que le ministre, quand il débloque cet argent-là, est-ce qu'il vérifie que cet argent va réhabiliter quelle route? Et si la route n'est pas réhabilitée, comment ils ne font pas de suivi? Pour nous, pour moi, je pense ceci. Et une fois que l'argent est débloqué, il commence à les soustraire à partir de là. Monsieur le ministre, prend sa part, arrive au niveau de la province aussi, prend sa part, arrive à la réalisation de ses compétences et pourquoi les routes ne sont pas réhabilitées. Par exemple, si je fais dire quitter Dongo à Guémena, c'est quelque chose de 296 km, mais pendant la saison de pluie maintenant, un véhicule peut faire des Dongo Guémena 2 semaines à cause de l'impraticabilité de la route. C'est pourquoi nous voulons savoir cet argent-là qui est développé et qui n'a pas réalisé son objectif. On ne voit pas de suivi. Les véhicules qui est levé des
donc vous posez juste le problème de suivi.
C'est des transports, des sables pour aller vendre ça tout en suite. Et les gens voient comme ça au niveau de. Si la justice ne fait rien, personne n'est plus de suivi, ne fait pas de suivi. Est-ce que cet argent-là, c'est parti où? Au niveau des ministres ou bien où? Pourquoi on ne fait pas de suivi?
Voilà, merci beaucoup Alain. On va prendre Jean Singhi qui est à Kinshasa. Bonjour Jean.
Bonjour Pierre, bonjour par aux auditeurs. Je salue aussi monsieur le ministre.
Merci. Vous avez la parole, oui.
Ok, merci beaucoup. Je voulais seulement rappeler à l'un de nos intervenants, avant que l'on donne la parole au ministre, qui croit qu'à Kinshasa, tout va très bien en ce qui concerne les routes. Bon, tant mieux, ça c'est son point de vue, mais je vais lui démontrer que ce n'est pas tout à fait exact. Mais nous louons exactement le président de la République pour le courage ou les réhabilitations qu'il est en train d'effectuer pour les routes quinoises et puis d'intérêt national. Mais néanmoins, il y a certaines inquiétudes. Je vais épingler quelques artères de la capitale où on a remarqué que depuis l'époque des 5 chantiers jusqu'à aujourd'hui, on ne remarque pas l'avancement des travaux. Nous prenons le premier cas. Quand vous quittez les chantiers de l'IMT en allant vers Ropoingaba, je ne sais pas ce quelle entreprise s'efficace ou quelle entreprise qui a commencé à travailler sur ces tronçons. Et les chantiers jusqu'à arriver au niveau de la station Salongo, en tout cas, ça ne fait pas moins de 5 ans qu'on est en train de travailler ces tronçons qui n'est jamais terminé. Nous passons de la route, quand vous quittez Super Lemba, vous allez vers Terminus. Ces tronçons-là, je crois que ces derniers ne terminent pas les véhicules qui vont vers Terminus. Sinon, les motos, et ils en font beaucoup d'argent. Quand nous revenons maintenant sur le grand boulevard Lumumba, révolution de la modernité, tout ce coup de chapeau, c'est très bien. Mais nous avons remarqué que pendant la francophonie, on a travaillé aussi d'arrache-pied. Même avant la francophonie, quand il y avait... c'est pas mal, les cinquantenaires. On avait lancé des travaux au niveau des boulevards et nous disions que si on continue avec cette allure, au bout de 2 mois, tout sera fini.
Mais les travaux
après,
auraient pu.
Après les cinquantenaires, oui, c'est passé. Maintenant, je me pose une question aujourd'hui. Quel type de travail les Chinois sont en train de faire au niveau du boulevard Lumumba? Parce que quand vous y passez, tantôt, on commence ces tronçons ici, on les laisse quelques jours après, on va créer notre tronçon, ainsi de suite. Quel type de travail?
Merci
vous quittez là, vous prenez la route de qui va vers l'île Brasserie. Vous quittez quartier 1 en allant vers Sekomaf. Ça fait plus de 3 ans, même situation. Vous prenez la route de Campus en allant vers Kimwenza, même chasson.
Bon, je ne sais pas continuer à citer la liste. La liste,
voilà, la liste n'est pas
exhaustive. Alors, maintenant aussi, la question que je pose au ministère, s'il peut me répondre, je serai très content, et à l'intérêt de la population aussi. Mais qui sont ceux qui sont désignés pour vérifier, ou mieux, le contrôle des travaux exécutés par les différentes entreprises? Vous prenez par exemple les Chinois. Ils construisent le boulevard Lumumba, bon, peut-être en ville aussi, sur le boulevard du 30 juin. Mais vous allez remarquer que quand il pleut, il y a certains endroits où l'eau stagne. Et puis, il y a du désordre pour les passants, même quand les véhicules passent, les passants, disons, les piétons sont éclaboussés par les eaux. Comment on va construire un grand boulevard et puis quelques temps, vous allez remarquer que les eaux stagnent. Alors,
c'est voilà, merci Jean-Sengui, on a pris assez de temps, vous avez eu à bosser quand même les tableaux même sur Kinshasa. Nous en profitons d'ailleurs pour bosser aussi les tableaux sur Mbandaka, parce qu'il y a Afritec qui est en train de travailler deux routes principales, à savoir Bossomi et Révolution, prévues pour une durée d'une année. L'exécution de ces travaux prend déjà 2 ans. On n'est même pas à la moitié, hein, monsieur le ministre. Et puis à Bukavu, la nationale numéro 2, les travaux sont arrêtés après que les Chinois aient rasé pratiquement plus d'une centaine de kilomètres et même des maisons, hein, parce que la route va passer aussi par le Rwanda. Alors la nationale numéro 5, l'axe inauguré par le président de la République, toujours à Bukavu, vers Uvira, avec du matériel impressionnant. Aujourd'hui, on nous laisse croire que ces matériels ne sont plus visibles, ni même les Chinois, et encore moins des engins. Nous partons à Lubumbashi, les gens attendaient l'autoroute telle qu'elle prenait quand on a lancé les travaux de la route Kasumbalesa à Kimono. Bon, qu'en est-il de cette autoroute? Parce que finalement, on se rend compte que la modernisation, telle qu'on avait promis, telle que les promesses ont été faites, mais on est loin de cela, monsieur le ministre.
Merci beaucoup. C'est un sujet, bien sûr, qui suscite beaucoup d'attention et de passion. C'est vrai, on a un vaste territoire, 2 345 000 km², qui doivent être bien drainés, avec des populations disséminées à travers des grandes villes, mais aussi des petits regroupements. Voilà pourquoi nous avions voulu que nous puissions mettre aussi prochainement un peu plus d'accent sur l'aménagement du territoire. C'est très important, parce qu'il faut faciliter effectivement un regroupement cohérent et une meilleure répartition des ressources. Et cela permettra aussi d'utiliser rationnellement et de manière optimale les moyens. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pris cet engagement de relever ces défis. Nous devons faire face à toutes ces préoccupations. Concernant les questions qui ont été posées sur la voirie des Kananga, je consens que quand on réhabite les voiries, il est quasi impossible de se passer de quelques désagréments, notamment le fait que le défoncement des couches sous-jacentes amène la poussière. Et les mécanismes, disons, d'atténuation qui sont prévus, tels que l'arrosage, ne peuvent que apporter une solution quelque peu palliative, mais pas totalement endiguer la poussière, parce que l'arrosage aussi fait de manière intensive ne permettrait pas d'avoir un sol portant et donc dégraderait les couches sous-jacentes. Mais n'empêche que c'est pour cela qu'il est prévu des voies d'aménagement, mais l'aménagement de nos villes n'a pas toujours répondu à ces gens des concepts, et on n'a pas toujours ces facilités. Et bien sûr, il y a aussi les coûts, hein, qui deviennent beaucoup plus importants quand on doit faire les voies d'aménagement et des déviations particulièrement. Je prends le cas des boulevards Lumumba sur la route de l'aéroport. Il y a des zones où il est difficile de prévoir des voies de déviation, étant donné les constructions qui se sont faites des parts d'autres de la chaussée. Et donc, par moment, nous sommes pris par certaines situations antérieures à la situation que nous sommes en train de gérer actuellement. Concernant les rythmes d'avancement, je pense qu'on était là en mars, lors de la conférence de gouverneurs présidée par le chef de l'État. nous avons vu que en termes d'équipement, en termes des matériaux, l'entreprise avait fourni énormément d'efforts et nous avons échangé avec les autorités provinciales pour que, avec cela et moyennant bien sûr certaines actions du côté du financement des travaux, que l'on puisse améliorer le rythme de manière à permettre à ce que les travaux qui restent à faire, c'est-à-dire l'aéroport jusque vers le centre-ville, puissent se faire en ayant 7 à 8 mois. Et c'est possible, et cela en tout cas devra être notre objectif. Pour ce qui est de l'Équateur c'est aussi une province qui fait l'objet de l'attention et des préoccupations du gouvernement et du chef de l'État particulièrement. Et je peux aujourd'hui en tout cas confirmer auprès de l'intervenant de tout à l'heure qu'il n'y a pas longtemps qu'on venait de signer un contrat important. C'est un contrat dit de gestion et d'entretien des routes par niveau de service. Et cela pour des montants assez consistants sur financement mixte du Fonds national d'entretien routier, de la Banque mondiale et de la coopération britannique. Et ce contrat concerne la route nationale numéro 6 qui partirait de Guémena à Koula jusqu'à Guémena, Zongo, en passant par Libengue et Boyabo, et ce serait pour environ 300, disons 60 kilomètres. Et le montant devrait approcher les 20 millions de dollars américains. Et les travaux doivent commencer d'ici 3 mois tout au plus. Concernant les autres axes, je ne donnerai pas les détails, je dois dire que il y a bien d'autres axes. L'Équateur a environ 8000 km de routes d'intérêt général et il faut comprendre que la prise en charge s'est faite progressivement en fonction.
Alors, si on a compris, pour essayer de gagner du temps, il ne reste que 6 minutes. Qu'en est-il de remplacement des ponts au niveau de la province orientale? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez reconnu dans une interview, que les travaux devaient déjà être faits. Et même au niveau de la même province, la question sur les bacs, vous avez reconnu qu'il y a sur 20 bacs, il n'y a que 5 qui sont opérationnels. Les ponts qui devaient être placés donc avec l'entreprise MAB, et les ponts qui portent le même nom d'ailleurs, Pont Mabey, jusque-là, les travaux ne sont pas exécutés.
Concernant les ouvrages d'art, les ponts, je dois dire d'accord que la province orientale vient aussi de bénéficier, dans le cadre de ce même programme financé par la Banque mondiale, le Fonds national d'entretien routier et la coopération britannique, d'un montant consistant pour pouvoir remplacer les superstructures des 11 ponts sur l'axe Kisangani Nyanya jusque Beni et sur l'axe Kisangani Banalia vers Bouta, et cela permettra à ce que l'on passe d'une capacité portante de 25 pratiquement à 45 tonnes. Donc c'est déjà une amélioration et cela se fera progressivement dans d'autres provinces bien sûr, et cela pourra aussi couvrir les structures subaquatiques. Mais je dois relever que la situation du trafic hors gabarit et des surcharges dans la province orientale est une situation quelque peu particulière. C'est essentiellement l'exploitation du bois. Et il y a beaucoup d'actions à mener en termes de sensibilisation et en termes de sanctions. C'est comme ça que nous recourons à toutes sortes de mécanismes pour réprimer sévèrement ce genre de comportement. Le pont Loya est un des derniers cas qui a été vécu et il y a bien d'autres cas qui ont été, disons, connus en 2012. Mais nous avons, en termes de protection, prévu d'acquérir des ponts apaisés qui viendront permettre une certaine...
Et qu'est-ce qu'il reste à faire avec les 4 ponts qui traînent encore au niveau de l'Office des routes? Les ponts Mabey.
Mabey, c'est une marque, ouais. C'est une marque, et nous avons commandé par contre les ponts pour moderniser le pont Chopo, mais en ce que je sache, les derniers ponts qui ont été commandés sont des ponts dits Wagner. C'est des ponts qui offrent la même capacité portante, mais à un prix légèrement moins élevé que le pont Mabé.
Dans le ministère où l'État congolais ne s'est pas entendu avec l'ingénieur anglais qui devait s'occuper de l'installation au préalable, donc du pont Mabé.
Il n'y a pas, disons, une question.
Un désaccord ou...
Non, même pas d'accord, en ce que je sache. Il n'y a pas eu un accord quelconque. L'office des routes est suffisamment outillé pour monter les ponts tout seul. Il acquiert les éléments qui viennent de l'étranger parce que c'est des gens outillés, des entreprises spécialisées qui fabriquent ces ponts. Mais l'office des routes est suffisamment outillé pour monter ces ponts et n'a pas besoin, en tout cas pour les ponts de ce type, d'avoir une expertise étrangère. Et en ce que je sache, il n'y a pas ce genre de contrat.
Monsieur le ministre, on aurait bien voulu vous garder parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'appréhensions. On ne peut pas continuer. En tout cas, vous allez nous permettre de nous arrêter et là pour aujourd'hui. Je crois qu'on pourrait prochainement encore revenir parce qu'il y a beaucoup d'appréhensions, beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. À moins que vous nous confirmez que vous serez là parce qu'on ne sait pas prendre tous les auditeurs. Il y a d'autres qui traînent encore en ligne. Toyana de Lumbashi, Jean-Claude Dabounia, vous nous excuserez. En tout cas, l'État nous fait défaut. Monsieur le ministre, vous confirmez que le mois prochain, vous pouvez revenir pour qu'on fasse encore l'état des lieux.
Je pense qu'on est là pour informer la population. Nous œuvrons pour cette population. Les autorités les plus hautes de ces pays nous ont toujours encouragés à faire ce genre d'exercice et c'est cela, finalement, gouverner.
Fridolin Kasuichi, c'est comme ça, je crois que j'ai bien prononcé. Vous êtes ministre des Infrastructures, des Travaux Publics et Reconstruction. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci beaucoup, M. J.R.
Allô? Mais ils ne répondent pas.
Voilà, merci à tous ceux d'avoir participé à ce débat. Merci également à Paul Badianiam qui a assuré la mise en onde de cette émission, qui a bénéficié du concours de Marcel Ngombombala et Berry Frankel Obtiak à la réalisation. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Je vous retrouve demain pour un autre débat. À très bientôt.